Petit Hans et son fait pupi, analyse d'une phobie chez un petit garçon de 5 ans.
Avec Éric Laurent, psychanalyste. Éric Laurent, bonjour.
Bonjour.
Avec Herbert Graff, un petit garçon de 5 ans atteint de phobie et devenu célèbre sous le nom du petit Hans, Sigmund Freud s'engage dans le domaine de la sexualité infantile sous l'angle clinique et va ainsi vérifier pas à pas les thèses énoncées dans les 3 essais sur la théorie de la sexualité parus quelques temps plus tôt. Là aussi, l'analyse est considérée comme l'un des grands cas de l'histoire de la psychanalyse et fera l'objet par la suite de nombreuses lectures critiques. D'autre part, la particularité de cette analyse tient au fait que Freud est en quelque sorte ici assisté par le père de l'enfant, qui est un fervent partisan de la psychanalyse, une connaissance de Freud déjà ancienne, et qui a consigné dans des notes abondantes et précises les observations sur la sexualité de son fils, le petit Hans.
Absolument. Les premières notes que nous avons, Freud le signale, sont à partir de l'âge de 3 ans. Or, ce n'est qu'à 5 ans que, ou 4 ans, 3 ans et 9 mois, pardon, 4 ans et 9 mois, que Hans présente sa phobie.
Donc, phobie des chevaux.
Des chevaux.
Des animaux de grande taille. Enfin, on va voir ça dans le détail, oui. Et alors, donc, c'est à cet âge-là, mais, conformément à un conseil que Freud lui-même donne à ses amis, à ses collègues de la société de psychanalyse naissante, cet homme, donc Herbert Graff, a noté tout ce qui concerne, disons, les attitudes, les paroles de son enfant, eu égard donc à sa sexualité.
Et spécialement, c'est en effet ce sont ses paroles. Le père, donc tout à fait initié à la technique psychanalytique, avait fait lui-même des communications dans la société de psychanalyse du mercredi que Freud réunissait.
Il était un musicologue réputé.
Et c'est un musicologue réputé. Là, à l'époque, il était en train de devenir ce qu'il allait devenir, célèbre. C'était un jeune musicologue, mais déjà essayiste, enfin, dans la Neue Freie Presse, éditorialiste. Il l'avait communiqué sur, d'ailleurs, la psychologie des écrivains, pas des musiciens d'abord. Mais il notait très soigneusement, et là ça fait partie, on a ce mouvement freudien qui, au début de siècle, puisque tout ça se passe en janvier 1908, il y aura un siècle dans 2 ans. En ce début de siècle, Freud donne la parole à des sujets qu'il n'avait pas. Qui n'avait pas la femme hystérique, l'enfant de 4 ans et demi, et demandant que l'on traite leur déclaration avec le plus grand soin, que ce soit noté, enregistré, et lui-même considérera ça avec le plus grand soin, en considérant ce petit garçon comme une sorte de théoricien de la sexualité, comme un chercheur sur sa sexualité, exactement comme nous le sommes tous. Adulte, enfant, c'est-à-dire que chacun cherche à se débrouiller avec la dite sexualité, avec un certain nombre de théories sur ce qui lui convient.
Voilà. Alors, ce qui apparaît quand même dès les premières notations, c'est que cet enfant semble très préoccupé par cette partie de son anatomie qu'il appelle lui-même son fait pipi.
Alors il appelle fait pipi vivimacher, qui vient au fait qui dérivait d'uriner, enfin de la façon dont on dit faire pipi, en effet, dans le langage enfantin de l'Autriche de l'époque. Et il est en effet ce à quoi Freud avait ce à quoi il était intervenu, c'est que contrairement à l'éducation de l'époque qui était très centrée, n'est-ce pas, sur la fascination par l'interdiction de l'onanisme. Préoccupation récente, mais très 19e siècle. La fin du 19e est marquée par une fascination sur pourchasser, enfin, les méfaits de l'onanisme chez les enfants qui leur font beaucoup de mal. récent dans l'histoire. C'était pas du tout le cas au 18e.
Le complexe de Nantes,
Ça n'était pas du tout le cas au 18e. C'est vraiment une manie, enfin, c'était l'ambiance. Et au contraire, Freud dessert cet étau en considérant qu'il faut plutôt s'intéresser à la façon dont la question de la masturbation arrive chez les enfants. Voilà. Et on voit comment à partir de 3 ans, en effet, 3 ans et demi, l'enfant fait part du fait qu'il met sa main à son fait pipi le soir et que ça fait plaisir. Et c'est là où à la fois les parents étaient pris dans l'atmosphère freudienne, puisque le père théoricien, enfin faisant des communications sur la psychanalyse, la mère qui avait une ancienne patiente de Freud,
oui.
Ça n'empêche pas que la mère à 3 ans et demi déclare à l'enfant après qu'il lui ait fait part pendant 3 mois du fait qu'il se touchait, lui disant si tu continues, je vais appeler le docteur pas Freud, le docteur Intel, généraliste, qui va te couper. Voilà, donc ça, c'était pas du tout conseillé. Ça, c'était pas du tout conseillé.
Ouais, c'est interdit lourd, donc qui pèse à l'époque.
Et avec une menace de castration, pour te dire, on va te le couper, qui n'est pas portée par le père, mais qui est donnée par la mère. Et Freud notera que c'est par cette menace maternelle, directement formulée, que l'enfant est introduit, dit-il, au complexe de castration, qui est le cas de beaucoup de névrosés. Et parce qu'à l'époque, Freud n'a pas encore cette idée que la castration, en quelque sorte, était une épreuve qui nous attend tous. Il a l'idée que vraiment seuls les névrosés et les névrosés qui sont spécialement touchés sont confrontés à cette menace-là. Et Freud ne cessera pas de réinterpréter cette question de la place exactement de la castration pour arriver à donner à cela une portée systématique.
Alors on reste dans les notes de Max Graf, le père du petit Herbert, si vous voulez bien. Les notes d'ailleurs de cet homme qui occupe pratiquement la moitié quantitativement de l'analyse du petit Hans dans les 5 psychanalyses.
Ah tout à fait, c'est très très frappant. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait, si je puis dire, la difficulté de lecture du texte. C'est qu'on s'y perd dans l'annotation très précise des ramifications du développement de la pensée de ce petit enfant. Et c'est d'ailleurs ce qui fait à la fois le charme aussi, labyrinthique, qui convient très bien aux difficultés.
Labyrinthe, je crois que le mot est employé par Lacan dans un texte qu'on va entendre.
En effet.
Alors, je dis, on revient donc à ces notes, elles sont importantes, elles sont assorties de quelques courts commentaires de Freud, mais en fait, la partie commentaire de Freud commence donc dans la deuxième partie de l'analyse. Alors, ces notes, donc, notamment, elles révèlent quand même un événement important avant le moment où cet enfant donc va consulter. C'est la naissance de sa sœur à 3 ans et demi, qui constitue pour lui, comme pour beaucoup d'enfants, de petits-enfants, donc une sorte de traumatisme.
C'est au fond, ce sont les deux choses, la menace de la mère de « on va te la couper » et ensuite la naissance de la sœur qui vient juste après et qui sont pour lui les deux événements qu'il va falloir faire tenir ensemble. À quoi sert donc l'effet pipi dans l'engendrement des enfants et comment est-il possible pour lui de supporter ce que veut dire la naissance de la sœur ? Quel est le désir qui met au monde cette sœur, dont il est jaloux, dont il dit d'abord tout de suite « moi je n'en veux pas, qu'on la ramène ». Et alors il faut lui expliquer « non, on ne peut pas ramener les enfants, tu sais, ils arrivent ah, ». Bon, alors il s'y fait. Il s'y fait.
Il lui faut 6 mois pour s'y faire, nous dit Freud, ce qui correspond à un temps qui est presque celui des relevailles, de ce qu'on appelait les relevailles dans l'ancien
temps. Tout à fait. Tout à fait. C'est un temps. Il faut un certain temps. C'est et au fond, ces temps-là étaient ritualisés, au fond, dans les époques où justement on pouvait marquer cela d'un certain nombre de rituels de passage, d'accommodation. Et nous avons, au fond, on peut très bien considérer que de nos jours, nous n'avons plus ces rituels-là, nous en avons d'autres. Nous en avons d'autres qui sont tout à fait structurés autrement. Les passages par la crèche, les passages par un certain nombre de choses marquent aussi des étapes dans le fait que se faire à l'enfant qui arrive n'est facile pour personne, ni pour la mère, ni pour le père, ni pour les petits frères et sœurs. Et que Là, nous avons vraiment la déclaration qui arrive toute fraîche.
Alors, on va parler de la phobie, si vous voulez bien, un peu dans le détail, mais auparavant, l'observation, l'analyse que Freud fait de ce matériau documentaire que lui fournit donc le père de l'enfant, il vérifie, je le disais au début, les théories énoncées dans son livre sur la sexualité qui vient de paraître, et en particulier cette idée que l'enfant est une sorte de pervers polymorphe.
Alors, le thème du pervers polymorphe, n'est-ce pas ? Nous sommes 1908, la classification des perversions vient d'être faite par les professeurs de psychiatrie de l'école de Vienne, et Freud, en 1905, venait de faire paraître ses essais sur la sexualité, dans lequel il montrait que les classification de ces perversions à l'occasion terrible, cliniquement observée chez des adultes dans les conditions, disons, de médecine légale, sont en quelque sorte ces possibilités qui existent chez les êtres humains, sont présentes à un état volatile, non fixé, labile, mais sont présents chez l'enfant. En quelque sorte, c'est la grande thèse, l'ontogénèse et la phylogénèse, la naissance de l'être de soi et le rapport à l'espèce. C'est une possibilité chez les humains. Et en effet, chez l'enfant, on trouve des éléments, dit-il, d'homosexualité, de sadisme, de masochisme, de voyeurisme.
D'inconstance même, dit-il, de... une espèce de tendance, de prédisposition à la polygamie.
Voilà, et en effet, c'est un thème là de la variété des coutumes, et qu'en effet, Freud, d'ailleurs, il est sensible, ça annonce d'ailleurs peut-être le fait que et le père et son père et lui-même divorceront, auront plusieurs femmes dans leur vie qui comptera, comme...
Voilà, on va revenir. Donc, on va entrer, si vous voulez, dans le cabinet du docteur Freud, donc en compagnie du petit Hans et de son père, le 30 mars 1908. Mais auparavant, puisque au cours de cette émission, donc qui est conçue aussi comme un hommage pour le 150e anniversaire de la naissance de Sigmund Freud, qui a eu lieu donc le 6 mai 1856, je vous propose, donc on a fait une sorte de galerie de portraits. Voici deux portraits de la part de gens qui l'ont bien connu, deux portraits de Freud. Le deuxième, donc, c'est Carl Gustav Jung. Et puis, donc, à l'instant, vous allez entendre Marie Bonaparte.
J'ai d'ailleurs eu l'honneur d'être l'élève de Freud en 1926. J'ai subi par lui une analyse didactique qui m'a permis de connaître la pensée du maître et surtout de connaître la façon dont il vivait dans son intimité tellement honorable et tranquille, contrairement à ce que tant de gens croyaient que Freud était un personnage bizarre qui ne s'intéressait qu'au problème de la sexualité en vertu d'une perversion personnelle. Je n'oublierai jamais le salon où il recevait ses patients, qui était plutôt son bureau, le divan sur lequel avait été créée l'analyse, sur lequel j'eus également l'honneur de m'étendre, au-dessus duquel trônait le portrait de Charcot, dont il avait gardé un grand souvenir et pour lequel il avait un grand culte.
Well, he was a complicated nature, you know.
C'était quelqu'un de compliqué. Je l'aimais beaucoup, mais je me suis vite aperçu que quand il avait pensé quelque chose, c'était établi. Alors que moi, je doutais. Et c'était impossible de discuter vraiment de quelque chose à fond. Vous voyez, il n'avait pas vraiment de formation philosophique. Tandis que moi, j'étudiais Kant. J'étais complètement plongé dedans. Et ça, c'était très loin de Freud. Donc, dès le début, il y a eu divergence.
Voilà, Voilà la voix donc de Carl Gustav Jung en 1955. Auparavant, donc, c'était Marie Bonaparte une année plus tard en 1956. Et on peut se demander, Éric Laurent, en quoi la critique de la raison pure de Kant est préférable, je ne sais pas, aux œuvres de Charcot pour traiter ce genre de problème.
Là, c'est très intéressant. D'abord, à l'époque, en effet, Kant est le fondement de l'approche en particulier des phénomènes psychiques. L'idée même de l'inconscient a été transmise par un disciple de Kant, Herbart, qui a essayé de situer justement des seuils de conscience, à partir de quel moment quelque chose devient conscient. Et c'est à partir des recherches de Herbart post-kantienne qu'il y a cette idée de l'établissement d'un inconscient dans lequel va se glisser l'inconscient freudien. Mmh. L'inconscient freudien, ceci dit, ce n'est qu'une homonymie avec tout le reste. Parce que l'inconscient freudien, c'est, on va voir, des mots, ce sont des choses logiques, tout ça n'a rien à voir avec ça. Simplement, quand Jung dit que Freud n'avait pas de formation philosophique, là, il se trompe. Freud avait suivi les cours en particulier de von Brentano, qui est un très grand professeur, qui est le fondateur, dit-on, on le note maintenant, de la théorie de l'intentionnalité, qui a tant de poids. On peut dire Brentano marque la césure qui va ensuite amener la césure entre le 19e et le 20e avec Husserl, la phénoménologie, etc. Ça commence avec von Brentano, très grand professeur à Vienne, dont Freud a suivi les cours 2 ans, et avec beaucoup d'intérêt. Alors, enfin, c'est secondaire.
Oui.
Par Marie Bonaparte, lorsqu'elle parle de l'intimité tranquille de Freud, c'est aussi quelque chose qui avait beaucoup frappé André Breton et Salvador Dali, rendant visite à Freud dans les années 20, et s'attendant à trouver quelque chose comme un mage. Enfin, Breton était à la recherche
d'un énergumène.
Voilà, de quelque chose comme ça. Oui, en tout cas, qu'une figure étrange de la sagesse, enfin, du mage de ces années-là. Et au contraire, trouvant, au fond, un personnage qui les a déçus par son caractère, en effet, d'intimité tranquille.
Et l'esprit positif aussi, peut-être.
Et l'esprit, en effet, positif et...
Alors, la phobie du petit Hans. Comme je le disais, il entre dans le cabinet de Freud le 30 mars 1908 en compagnie de son père. Et ce premier entretien, au dire de Freud, est rapide.
L'entretien est rapide, en effet. Oui. Freud, au fond, s'est montré. C'est assez...
Il a déjà dénoué quelque chose, d'ailleurs.
Il a tout à fait dénoué quelque chose. Il ne se montre qu'après une première, une première avancée dans la phobie. Et tout de même, l'entretien est rapide, mais il y a tout de même des déclarations qui resteront importantes, en particulier quand il lui dit qu'il le connaît déjà par à la fois tout ce que son père lui dit. Il se présente, et puis la déclaration sur ce qu'il savait déjà, avec sa maman, qu'il aimait tellement, et allait venir au monde un petit enfant qui allait être très aimé par sa maman, peut-être trop aimé par sa maman. Et ça frappe beaucoup Hans, qui sort de là, et qui dit à son père, marchant, mais dis-moi papa, le professeur, est-ce qu'il ne parle pas avec le bon Dieu pour savoir tout ça? C'est à la fois, c'est l'installation d'une fonction que Lacan appellera le sujet supposé savoir, le transfert, ça s'appuie sur le fait qu'en effet, il est supposé savoir ce qui se passe. Et le petit enfant reconnaît ça, on le parle sur cette formule imagée, il parle avec le bon Dieu, il sait des choses, on ne sait pas d'où ça vient. Il fait cette confiance-là.
Alors, il lui demande, par exemple, connaissant donc sa phobie des chevaux, notamment, l'enfant lui parle de noir autour de la bouche des chevaux, et il lui demande donc Freud si les chevaux portent des binocles. L'enfant répond par la négative, et Freud lui pose la même question concernant son père. Est-ce que son père porte des binocles? Et comme la réponse est de nouveau négative, Freud explique au petit Hans qu'il a peur de son père, justement parce qu'il aime tellement sa mère. Ça fait réfléchir le gamin, ça.
Oui, ouais. Et on voit la façon dont Freud procède. il ne procède pas de façon, si je puis dire, il ne lui sort pas, tu sais...
Est-ce que tu as lu la telle page de ma théorie de la sexualité ?
Oui, ou simplement lui dire tout simplement, écoute, tout ça est assez simple, mon garçon, tu as peur de ton père parce que ton père est ton rival pour ta mère. Non, il procède par, d'abord, on part du fait clinique. Lui a parlé du cheval avec quelque chose autour de la bouche. Ensuite, on avance par les lunettes. Investigation sur les lunettes. Et ensuite, on passe au père. Alors, a-t-il ou n'a-t-il pas ? Et c'est par un chemin déductif, après, comme conclusion d'un raisonnement, qu'il a fait avec l'enfant, qu'il a accompagné. Et en partant du fait clinique et ensuite le développement, ça se conclut alors par l'interprétation. Et que l'interprétation, on le voit, doit venir comme scansion après un développement. Et non pas comme un cheveu sur la soupe.
Alors, je ne sais pas, Éric Laurent, si on aura le temps de d'écrire, disons, l'évolution théorique de Freud depuis ce cas, notamment sur la sexualité infantile, le complexe de castration, le complexe d'Œdipe. Mais on peut quand même signaler une loi importante qui est dégagée, une loi mécanique de l'économie libidinale infantile, c'est la transformation de la libido donc en angoisse qui doit trouver un objet de substitution qui constituera d'ailleurs le matériel phobique.
Alors le matériel phobique qui est à la fois, si on veut, c'est la mise en forme de cette angoisse, objet de substitution. Oui, mais on pourrait dire alors c'est un objet du monde. Dans un objet du monde, en effet, le cheval, qui apparaît, ça pourrait être tout autre chose que le cheval. Puisqu'après toi, 3 ans, Hans avait repéré que les chiens et les chevaux, eux, ont un fait pipi. Il aurait pu développer une phobie des chiens. Ce sera le cheval, pour des raisons de surdétermination, enfin pour des raisons autres, ça tombe sur le cheval, mais en effet, dans un objet du monde, apparaît ce qui normalement...
Il faut dire que les chevaux, évidemment, étaient beaucoup plus courants dans les rues de Vienne à l'époque qu'on ne peut l'imaginer aujourd'hui.
C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Ils pourraient faire une phobie des automobiles, oui.
C'est ça.
Mais qui n'ont pas de fait pipi. C'est pas du vivant. Alors, il y avait en effet les chevaux qui étaient partout. Et il a, d'ailleurs, on le sait, Freud avait offert un cheval à bascule pour l'anniversaire de ses 3 ans. Donc c'est un objet qui est à la fois de l'extérieur et de l'intérieur, si je puis dire, de son monde de jouets. Et lui-même d'ailleurs fait à cheval sur la bonne, dans l'observation, etc. Mais on voit à quel point cette phobie, cet objet de substitution, est un objet logique. C'est un objet pour lequel il s'agit de mettre en forme cette angoisse. C'est un objet logique à tel point que la phobie se transforme entre les chevaux qui mordent au départ, et après une série d'observations où justement le cheval qui mord, c'est le père, c'est tout ça est interprété, et à ce moment-là, il y a un soulagement à partir du mois d'avril, les 3 mois, c'est après l'interprétation sur le père que l'enfant intègre, accepte, et ça se transforme et ça devient la phobie des chevaux traînant des voitures lourdement chargées. Or, Freud dit pourquoi cela ? Parce que, au fond, dans le viennois de l'époque, les voitures wagon est homophone avec le mot à cause de. Et pour Freud, c'est souligné de façon exemplaire. Ce sont ces objets de substitution. Si je puis dire, on voit à quel point ce sont des objets logiques. Au point que les voitures, s'il dit cette transformation de la phobie, c'est simplement parce que il a besoin, à un moment donné, de poursuivre sa construction théorique. Et c'est à cause de quoi ?
Et c'est en somme le petit Hans qui devient théoricien, d'une certaine façon, dans cette affaire.
C'est un théoricien.
C'est ce que dit Freud. Hein.
Voilà. En effet...
Alors, écoutez, pour ouvrir le chapitre des relectures nombreuses, puisque dans ce texte, Freud ouvre le champ aussi la psychanalyse des enfants. C'est un domaine tout de même un petit peu particulier. Je vous propose d'écouter donc le texte célèbre de Lacan, justement consacré à ce cas. Thank you.
Ce texte, à lui seul si confondant par son aspect de labyrinthe, par son attestation d'une sorte d'épellement balbutiant, tournant en rond, et à vrai dire dont l'issue, à part ceci que le petit Hans n'a plus peur des chevaux, et après ? Est-ce que c'est là l'intérêt d'une telle recherche de faire qu'un ou mille petits bonshommes soient délivrés de quelque chose d'embarrassant qu'on appelle une phobie ? L'expérience prouve que les phobies ne mettent pas beaucoup plus longtemps à guérir spontanément qu'avec une investigation telle que celle dont il s'agit en l'occasion, celle de son père, élève de Freud, et de Freud lui-même.
Voilà, donc le séminaire de Jacques Lacan. Jacques Lacan, qui est attentif, lui, au fait qu'il a une interprétation intéressante. Bon, il y a cette phrase célèbre, « Le petit Hans n'a plus peur des chevaux, et après ?» C'est une question, évidemment, qui est lourde de sens.
Très lourde de sens, parce que là, elle nous amène, si je veux dire, à notre plus brûlante actualité. C'est en effet... dans ce qui traverse le milieu psy actuellement de façon renouvelée, la tension entre les traitements, disons, par suggestion autoritaire cognitivo-comportementaliste, qui renouvelle ces questions.
Ce qu'on appelle les TCC, les thérapies...
Voilà, cognitivo-comportementales. Voilà. Ou les... et l'orientation psychanalytique, on met volontiers l'accent du côté TCC sur, précisément, l'efficacité du traitement de la phobie.
La guérison.
Et là, Freud a été, si je puis dire, TCCiste. Freud a considéré qu'il avait, en 4 mois, traité la phobie de ce garçon. Nous savons d'ailleurs, en effet, le « et après » de Lacan d'ailleurs résonne maintenant, puisque nous savons, Herbert Graf est mort en 1973, après avoir donné des entretiens où il a pu parler de sa vie. On sait que sa vie n'a pas été simple, que c'est...
La phobie est partie, mais son problème
Ce qui est les problèmes d'existence de Hans, ce qu'il a dû traverser, les rapports difficiles avec les femmes, une vie dite très difficile, et où Freud jette un voile, d'ailleurs pudique, sur la pathologie des parents, qui est plus accentuée que ce qu'il,
en dit,
ouais. De la mère notamment, nous le savons. Mais cette, si vous voulez, ce voile-là, pour l'enfant, est au-delà de ce qui pourrait être le symptôme à traiter de cette phobie. Car c'est une méditation, c'est là où le « et après » de Lacan n'est pas seulement une mise en garde contre, si je puis dire, sur le fait que c'est beaucoup plus complexe que ce dont il s'agit. Il y a toute une méditation sur la paternité, sur ce qu'est être le père, entre le petit garçon, son père et Freud.
Oui, le père symbolique et Freud.
Qui,
oui.
À travers ça, nous amène à une méditation sur ce qu'est le symbolique, puisque, au fond, si le traitement est en lui-même le passage de tout l'imaginaire de départ, cet imaginaire des chevaux qui mordent, etc., jusqu'à une construction symbolique et théorique, puisque sous le mot théoricien, il y a vraiment un monde symbolique qui s'ouvre, et c'est ce à quoi, en effet, l'enfant nous mène, si nous le suivons. Et c'est pour ça que l'optique de trop se centrer sur le symptôme à traiter, disons, en tant que comportement, est une vision qui laisse de côté tout le champ de ce qui se trouve derrière.
Voilà. Alors, lorsque vous dites... alors, le passage, donc, de l'imaginaire au symbolique, c'est aussi, le sevrage, en quelque sorte, de la mère, l'éloignement et la séparation de la mère. Mais lorsque vous disiez à l'instant, Éric Laurent, que Freud se comporte un peu comme un TCCiste dans cette... c'est parce qu'il annonce, dès le départ de la psychanalyse, qu'il s'agit d'une guérison qu'on va avoir... Donc, le cas d'une guérison, et ça pose évidemment la question, qu'appelle-t-on un succès thérapeutique ?
Oui, alors, quand je disais de façon, n'est-ce pas, provocante, Freud fait TCCiste lorsqu'il se sent sur la préoccupation guérison. Et en effet, qu'est-ce qu'un succès thérapeutique ? C'est précisément d'avoir suffisamment soulagé de sa souffrance quelqu'un pour que, si je puis dire, il puisse traiter de façon créative ce qu'il aura plus tard à rencontrer comme modulation, reformulation de sa difficulté, du drame essentiel qu'il a mis au monde.
Merci Éric Laurent. Je rappelle que vous êtes psychanalyste chargé de cours à l'université Paris 8.